Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue au Festival de Rocamadour pour l'avant-dernière journée de l'édition 2022. Ce soir, à 21h, la compagnie La Tempête va donner à l'abbatiale de Souillac les Vêpres à la Vierge, le chef-d'œuvre de Claudio Monteverdi. Il y a 3 ans, j'avais interviewé Simon-Pierre Bestion, le fondateur et directeur artistique de La Tempête. C'était lors de l'édition 2019 où sa compagnie avait interprété les Vêpres de Rachmaninov cette fois-ci. C'est cet entretien que je vous propose de réécouter aujourd'hui, quelques heures avant le concert à Souillac. D'abord, nous allons faire connaissance avec vous, Simon-Pierre Bestion, et avec la compagnie que vous avez fondée. Vous concernant, vous avez été formé au conservatoire à rayonnement régional de Nantes. Vos instruments de prédilection sont l'orgue et le clavecin. Puis votre goût pour la polyphonie vocale et la musique chorale vous ont orienté vers la direction de chœur, toujours au conservatoire à rayonnement régional de Nantes d'abord, puis au conservatoire national supérieur de musique de Lyon, où vous avez intégré la classe de Nicole Corti. Vous avez également reçu les conseils de grands directeurs de chœur, entre autres ceux du Toulousain Joël Subiette. Et puis vous fondez La Tempête en 2015. Mais là, je vais vous demander de préciser les choses, parce qu'en fait, cette compagnie, basée tout près d'ici, à Brive-la-Gaillarde, est née de la réunion d'ensembles préexistants. Racontez-nous un peu cette histoire, amenez-nous dans l'œil du cyclone.
Oui, alors en fait, comme vous l'avez précisé, de par mon goût et ma formation pour l'orgue et le clavecin, j'ai commencé assez jeune, en fait, faut le dire, à créer un groupe autour de moi qui était au départ un groupe de musique de chambre, Europa Barocca. Donc à l'âge de 19 ans, il y a 10 ans. En fait. Et donc, à cet âge-là, j'ai créé ce chœur et cet ensemble, et 2 ans plus tard, un chœur sur Paris qui s'appelait Luce del Canto. Et les deux ensembles avaient leur vie parallèlement, on va dire, mais ne se réunissaient que très peu. Et puis, finalement, j'en ai eu un peu marre d'avoir deux identités en moi-même. C'était un peu complexe à gérer. Donc, j'ai préféré me dire qu'un seul projet artistique en valait la peine, et petit à petit ça s'est montré comme une évidence de réunir ces deux entités, ces deux groupes, puisque le chœur aussi avait commencé par être, comme la plupart des chœurs, au départ amateurs, avec des chanteurs qui étaient en voie de professionnalisation, et au bout de quelques années, grâce au soutien de la Fondation Orange, qui est venue nous aider dès les années 2013, on a pu professionnaliser ce chœur Luce del Canto, et en 2015, j'ai réuni les deux ensembles pour fonder La Tempête, avec une vraie identité artistique, là je trouve, qui s'est réunie avec les répertoires qu'on travaillait, c'est-à-dire plutôt le répertoire baroque d'un côté et le répertoire contemporain de l'autre.
Pour l'autre petite histoire, pourquoi cette installation à Brive-la-Gaillarde, où vous avez succédé à la Camerata Vocale?
Oui, tout à fait. En fait, c'était un appel à projet de Jean-Michel Hassler et de la Camerata Vocale. Et ça tombait parfaitement pour nous, parce qu'on cherchait un endroit vraiment pour s'installer et travailler de façon locale avec une population, et puis monter un chœur amateur, ce qui a été le cas. On a repris donc le chœur de Jean-Michel Hassler. Et puis voilà, maintenant, ça vit bien depuis 5 ans, presque. Et donc, on a amené notre patte, La Tempête, à la suite d'un projet qui était déjà formidable.
Alors, une question se pose peut-être certains de nos auditeurs. Pourquoi avoir appelé votre compagnie La Tempête? Est-ce que c'est en référence à la pièce de Shakespeare ou à la sonate de Beethoven, ou les deux peut-être?
Surtout à Shakespeare, je dois l'avouer. Mais pour plein d'autres raisons, puisque le mot était à notre portée. En fait, en 2014-2015, pour la création de cette réunion d'ensemble, pour cette fusion, on a préparé un grand spectacle autour de The Tempest de Shakespeare, qui a été aussi notre premier album chez Alpha. Cette thématique, pour moi, était puissante de par l'histoire de Shakespeare, de par la magie qu'il y a dans cette œuvre et qui compte pour moi dans tout ce qui est artistique. Cette présence magique, un peu spirituelle, je dois dire. Et puis, ça permettait de réunir la musique baroque d'un côté avec Shakespeare, donc ses contemporains, à la fois Purcell et Matthew Locke, dans le même programme, que des compositeurs contemporains, puisque Shakespeare anime toujours autant les esprits. C'est un peu comme, comment dire, comme des grands textes, soit de l'Antiquité, soit de la Bible. Enfin, il y a quelque chose chez Shakespeare d'assez universel, et ça me plaisait beaucoup. Et puis La Tempête, c'est fort, c'est quelque chose qui emmène quelque chose de nouveau. On dit souvent, après La Tempête, qu'il y a toujours un renouveau.
La Tompette, la compagnie maintenant, effectif à géométrie variable, l'on trouve des instrumentistes, des chanteurs, mais pas seulement.
Oui, c'est vrai que quand même on va dire que la compagnie est fondée, puisque c'est une compagnie de personnalités assez, on va dire, éclectiques. J'aime cet éclectisme parce que les personnalités sont fortes et variées, pas toujours faciles à diriger, je dois dire. Mais ça reste un plaisir et pour moi c'est quelque chose qui me nourrit de travailler avec des gens qui sont parfois chanteurs et acteurs, parfois chanteurs et danseurs, mais aussi les instrumentistes, certains, moi je les fais beaucoup chanter par exemple, je les fais beaucoup parfois danser s'il le faut, et puis je me nourris de travail de soit visuellement moi-même, soit je fais intervenir par des formations, des metteurs en scène, des danseurs, des chorégraphes. C'est vraiment un travail, comme le définit le nom de La Tempête et de Shakespeare, qui se veut un peu total dans la représentation.
D'où le terme de compagnie qui prend tout son sens, on n'a pas à faire là un simple ensemble vocal et instrumental. Concernant vos productions, qui sont peut-être plus des spectacles que des concerts finalement, comment vous définiriez les propositions et le répertoire de La Tempête, si tant est que ce soit possible d'ailleurs ?
Alors, je dirais premièrement que le répertoire de La Tempête, c'est celui que j'aime. Je ne me mets pas de limite d'époque en tout cas. C'est vraiment les coups de cœur qui me traversent, et ces coups de cœur-là, je les suis en fait. Il y a vraiment une part d'instinct que j'assume entièrement, et je vais à fond là-dedans. Donc quand il y a une pièce qui me poursuit, j'ai envie de dire, comme les Vêpes de Rachmaninoff, j'y vais à fond, et je cherche en moi pourquoi elle me plaise. Et finalement, en retraçant un peu l'histoire de mes coups de cœur et de mes envies, que ça soit en musique baroque, en musique contemporaine ou même plus ancienne, parce que j'aborde de plus en plus la musique médiévale sous un angle assez particulier, notamment avec le travail de Marcel Pérez. Eh bien, je pense que de toute façon, la spiritualité dans la musique me guide, et la musique sacrée principalement. C'est vrai qu'on aborde assez peu de musique non sacrée, donc il y a quelque chose de transcendantal dans ces musiques qui me guide, et je ne fais pas vraiment de différence entre le fait qu'elles soient du XVIIe siècle ou du XIXe. Après, l'esthétique, je crois, c'est... Il faut s'immerger dans la vie du compositeur, s'immerger dans l'époque, et on arrive à trouver finalement le langage, mais quand on a l'intelligence et l'humilité de s'attaquer à ces partitions-là, je pense qu'on peut arriver à effacer ces frontières qui finalement sont assez invisibles entre les compositeurs.
Votre conception des programmes que vous proposez au public, chacun d'entre eux est mis en espace, scénarisé, en fonction de l'effet, de l'ambiance que vous voulez créer auprès du public, au-delà du seul aspect sonore et musical. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus large que ça ?
Non, c'est tout à fait ça. Il y a quelque chose où je me laisse évidemment porter par la musique. Je cherche vraiment, pour cela je la travaille vraiment très longtemps moi-même dans mon salon, sur mon piano, et à force de la jouer, je m'inspire de ce qu'elle produit en moi pour savoir vers quoi je veux aller au niveau visuel. Disons que j'ai un idéal. Peut-être par exemple sur la Vêpes de Rachmaninoff, mon idéal serait de plonger les gens totalement dans le noir et de les entourer, de faire ces vêpres sans qu'il n'y ait aucun visuel. Mais la plupart du temps, c'est pas possible puisque les festivals ne peuvent pas forcément accueillir ce genre de prestations dans le noir. Donc il y a ce visuel, et pour moi dans ces cas-là, autant en faire quelque chose d'intéressant. J'ai pas envie de montrer un cœur statique qui est en forme ovale ou classique pendant une heure et demie de concert, ça m'intéresse pas. Autant que s'il y a de la lumière, autant que les visages, que les corps soient en mouvement et qu'elles impriment quelque chose à la hauteur de la musique.
Donc ça veut dire, si je comprends bien ce que vous me dites, que suivant les conditions que vous propose un festival ou une salle de concert, quelle qu'elle soit, suivant les lieux où vous vous produisez, la mise en espace et donc d'une certaine manière le spectacle sont recréés à chaque fois.
Oui, tout à fait, oui. Ça c'est clair que pour moi c'est une évidence qu'on ne peut pas garder le même spectacle à chaque fois, puisque le fait de se produire dans des lieux aussi magiques mais aussi uniques comme celui de Rocamadour nous oblige à nous adapter au lieu. Bon, l'acoustique c'est une évidence, tous les ensembles, tous les chefs et les chanteurs ils travaillent à ça, mais je crois qu'on oublie très souvent l'aspect visuel et surtout l'aspect architectural, la présence des pierres. On ne peut pas chanter dans 15 jours, on va aller faire un concert Non loin d'ici, à Périgueux, dans la cathédrale de Périgueux, qui est une énorme cathédrale avec 5 coupoles, ça n'aura rien à voir. Et c'est une obligation, je trouve, et quelque chose de, en fait, pour nous très excitant en tant qu'artistes et créateurs, de devoir s'adapter et créer un spectacle unique créé pour le public qui sera là ce soir.
Si on en vient à l'histoire encore jeune de la compagnie, depuis sa fondation, quel programme avez-vous monté et avec quelle distribution ?
Alors, beaucoup de programmes différents, je ne m'en souviens pas, de tous, mais en tout cas, on est quand même, comme je le disais au départ, plutôt sur une dominante de musique baroque, donc des Tempests, qui était le premier, donc musique anglaise baroque et musique, on va dire, anglaise, franco-anglaise du XXe siècle. Après, il y a eu un second disque très important qui a été Hasard, qui est un peu moins grand public, on va dire, mais qui est toujours écrit autour du rituel et de la rencontre de deux répertoires. C'est un peu comme ça que je fonde souvent mes projets, autour d'une dualité. Là, c'est la dualité entre la musique médiévale et l'inspiration que ça a pu donner sur des compositeurs du XXe siècle, qui sont Maurice Ohana et Igor Stravinsky. Et les deux compositeurs rencontrent deux œuvres très anciennes du XIIIe et du XIVe siècle, la Messe de Machaut et les Cantigas de Santa Maria. Donc ça a été un projet fort, puisqu'on n'a pas seulement fait rencontrer ces musiques, mais j'ai aussi réadapté les œuvres du XXe siècle avec l'instrumentarium médiéval. C'est-à-dire que les instruments que j'ai utilisés ne sont pas des instruments modernes, mais anciens. Donc ça donne une toute autre couleur à la messe de Stravinsky et au Cantigas de Maurice Ohana. Et puis le dernier CD, par exemple, qui s'appelle L'Arme de Résurrection, là aussi c'est une dualité très forte entre Schütz et Schein, deux amis qui sont certes contemporains, mais qui ont une écriture qui n'ont rien à voir dans ces deux œuvres en tout cas.
Ça m'amène, vous me tendez la perche, à parler du programme L'Arme de Résurrection. Et pour nous mettre dans l'ambiance, je vais diffuser un petit extrait, la compagnie La Tempête dans ses œuvres. Extrait de L'Arme de Résurrection par la compagnie La Tempête. Et là, il faut qu'on explique à nos auditeurs de quoi est fait ce programme, puisqu'il a été créé à partir de deux grandes œuvres du répertoire baroque allemand. Vous venez un petit peu déjà d'en parler, en tout cas d'évoquer les deux compositeurs en question. Desquels s'agit-il et de quoi est-il justement question dans ces œuvres ?
Alors, au départ, mon choix, ça a été vraiment à la fois un coup de cœur sur l'œuvre de Shine. Depuis très longtemps, j'avais entendu ce disque magnifique de Philippe Hervég sur les Israel Brunlein, donc les fontaines d'Israël de Shine, qui est un compositeur finalement assez peu connu dans l'ère baroque pour le grand public. Et ce recueil est comme un bijou, hein, parce que il a écrit pas mal d'autres œuvres instrumentales qui n'ont pas du tout la même valeur artistique, mais je dois dire que ces madrigaux à cinq voix de Shine sont absolument sublimes et valent largement un Monteverdi pour moi. On parle tout le temps des madrigaux Monteverdi, ceux de Shine, donc dans les Israel Brunlein, sont extraordinaires. Et d'ailleurs, il y a un lien très fort entre la musique italienne de Monteverdi ou même Gabrielli avec Shine, donc il s'est inspiré fortement du madrigalisme italien. Et puis d'un autre côté, il y a ce Schütz, cette histoire de la résurrection de Schütz qui finalement a été pour moi le fil conducteur de ce projet. Mais j'étais face à un dilemme, le dilemme que c'est une œuvre que j'aime vraiment par son ascétisme, je dirais. Schütz là-dedans n'a rien à voir avec Shine. Shine qui est totalement italien, débordant de contrastes, oui, toutes sortes d'affects que tout à fait baroque. Schütz, dans son œuvre, au contraire, est d'un ascétisme parfait. On dirait ça ne ressemble à rien, en fait. À vraiment rien de ce qu'on peut connaître. Il y a un mélange à la fois litanique avec cette mélodie de l'évangéliste qui, un peu de façon grégorienne, on dirait aujourd'hui, nous raconte l'histoire de la résurrection. Donc, le lendemain de la mort du Christ, Marie et Marie-Madeleine se retrouvent au tombeau et ne trouvent pas le corps du Christ. Donc, il y a quelque chose de... L'histoire ne tourne que là-dessus et sur l'émotion des personnages qui sont près du Christ, qui ne trouvent pas ce corps. Donc finalement, l'histoire n'est presque rien, mais en fait, on est sur une émotion assez virginelle, très pure de Marie, de Marie-Madeleine, des apôtres qu'on découvre un à un dans l'histoire de Schütz, qui sont vraiment abasourdis par cette nouvelle de ne pas retrouver le corps. Et puis petit à petit, dans cette même journée, à plusieurs reprises, ils vont le croiser, ne pas le reconnaître, le recroiser, ne pas le reconnaître. Et à la fin de l'œuvre de Schütz, finalement, il y a cet éclat où tout d'un coup, l'ensemble des apôtres et des amis du Christ redécouvrent ce visage. Mais le dilemme duquel je parlais, c'était que l'œuvre de Schütz est tellement ascétique qu'elle en vient presque dure à écouter en entier, comme ça, elle dure 45 minutes. Et elle devient presque répétitive. Et j'ai eu l'idée donc d'intégrer quelques madrigaux de Shine, qui n'ont rien à voir au niveau du texte, puisque c'est plutôt des textes issus de l'Ancien Testament. Mais je les ai vus comme justement des échos, des paraboles, des temps de respiration aussi. On n'est pas vraiment coupé du récit, mais on a le temps de prendre un peu de recul, de revenir sur ces textes dans l'Ancien Testament, et de revenir ensuite au Nouveau Testament avec l'histoire de Schütz. Et donc finalement de ne pas être pris par... cette répétition qu'il y a dans l'œuvre de Schütz et de redécouvrir à chaque fois, d'être surpris sans arrêt, un peu à la manière d'un film, d'une histoire. Je l'ai voulu comme quelque chose de très dramaturgique, au sens propre de Shakespeare, par exemple.
Encore Shakespeare. Donc, des œuvres qui ont la particularité et l'originalité d'avoir été écrites par des compositeurs baroques allemands, luthériens, mais influencé par le baroque italien de la même époque, notamment par la musique de Claudio Monteverdi, avec une forte présence de l'Évangile, de l'Ancien Testament et des personnages, évidemment, de ces œuvres capitales pour l'histoire de l'humanité. Comment vous mettez ça en espace, en scène? Est-ce que le public a son rôle aussi à jouer dans cette création? Est-ce qu'il est immergé dans le spectacle?
Il est immergé, donc surtout dans le projet duquel je parlais, Les Vêpes de Rachmaninoff, parce que là, c'est un groupe uniquement de chanteurs, donc à chaque fois qu'il y a des chanteurs a cappella, pour moi, c'est quelque chose d'assez évident de pouvoir être facilement en mouvement. Quand il y a un orchestre, on est plus en difficulté, on va dire, il y a quelque chose de statique du fait des instruments qui est obligatoire. Donc du coup, j'ai plus choisi une représentation picturale des larmes de résurrection. Par exemple, pour Nocturne et les Vêpes de Rachmaninoff, là, le public participe complètement à ce rituel. C'est vraiment un rituel que j'ai réimaginé. Et c'est d'autant plus d'émotion, je pense, pour le public de se trouver au centre du son.
On va écouter un second extrait de L'Arme de Résurrection pour découvrir les voix et les paroles qu'on peut y entendre.
«
Second extrait de L'Arme de Résurrection par La Tempête. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que votre compagnie se produit à Rocamadour. Est-ce que lorsque vous découvrez de tels lieux juste avant d'y donner un concert, est-ce que leur architecture, les ondes et la présence qu'ils dégagent peuvent vous inspirer un peu au dernier moment de petites modifications dans un programme tel que, par exemple, L'Arme de Résurrection ?
De grosses modifications, je dirais. Non, c'est toujours... Et d'ailleurs, c'est les moments que je préfère dans le... Dans les jours de concert, c'est le moment où je suis seul avec le lieu, parce que il y a un silence et une solitude qui est nécessaire avant la création pour se retrouver et puis pour imaginer quelque chose en écho avec le lieu. Ça me semble très important de faire vivre cet écho-là et de respecter le lieu où on est, de le mettre en valeur et de le sublimer, quoi, finalement.
De l'habiter presque.
Voilà, ça c'est sûr, l'habiter.
C'était l'interview de Simon-Pierre Bestion, fondateur et directeur artistique de La Tempête, lors de l'édition 2019 du Festival de Rocamadour. Ce soir à 21h, à l'abbatiale de Souillac, donc, La Tempête donne les Vêpres à la Vierge de Claudio Monteverdi, une œuvre vraiment magnifique, il ne faut surtout pas rater ce rendez-vous. Je vous invite donc à réserver et acheter vos places en ligne sur le site du festival www.rocamadourfestival.com. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi à l'écoute de Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.